Bonjour à tous, bonjour à vous les chrétiens qui sont ici, à ceux qui sont en direct. J'espère que vous allez bien, est-ce que vous allez bien? Vous pouvez faire un signe? Ouais, super, ok, tout le monde va bien, tout le monde est masqué, c'est trop beau. On n'est pas au bal masqué, mais ce matin on est au culte en direct. Et j'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous allez bien. Vous pouvez le marquer sur le chat, faire un petit coucou, un petit bonjour, dire qui est derrière le chat. Et nous, on va le lire, bien sûr. Alors oui, on est en direct et on est aussi en présentiel ce matin. Et c'est vraiment un plaisir de se retrouver. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est présent. Dieu est ici, parmi nous, il est en nous. Et ce matin, on veut vraiment tous vous accompagner dans la louange et dans l'adoration pour notre Sauveur et notre Roi des Rois. Alors si vous le voulez bien, on va commencer ces instants par prier. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que ce matin, tu as encore fait battre nos cœurs pour que nous puissions vivre ces instants en ta présence, ensemble, en famille, ici, mais connectés aussi ensemble et connectés à toi. Alors Père, je te prie vraiment de prendre toute la place et nous voulons ce matin bien humblement t'apporter notre louange et notre adoration et ne pas se priver, mais être heureux de se retrouver, Seigneur, en ta présence. Amen.
Amen. Bonjour à chacun. On est très heureux, comme l'a dit Anne, de vous retrouver, de retrouver des frères et sœurs en ce lieu. Et on pense aussi à tous ceux qui, derrière leur écran, vont vivre ce culte avec nous. Alors je vous invite à vous lever pour entrer dans un temps de louange. Peut-être vous aussi, chez vous, je trouve que c'est important d'être dans une position vraiment d'attente du Seigneur et voilà, de pouvoir vraiment le louer pour sa grâce. Je voudrais juste commencer ce temps par quelques versets du psaume 24 où il est dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. » Alors je vous invite vraiment à le louer avec nous au travers de ce chant déjà. Quelle grâce incomparable que le Seigneur a pour chacun d'entre nous.
Quel amour infini,
quel amour infini est celui de notre Dieu. Il a donné son Fils Jésus, afin qu'en lui, nous ne périssions point, mais nous ayons la vie éternelle. Je vous invite à prendre ce second chant comme vraiment une proclamation. Jésus a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le Sauveur du monde. Son Fils, mort à notre place.
Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli, le Seigneur a vaincu l'obscurité.
Il revit, sur la mort il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le Sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus-Christ, Sauveur du monde.
Sa gloire aussi dans sa création. J'ai eu l'occasion la semaine dernière d'aller à Zermatt en Suisse. C'est magnifique quand on voit la nature, la belle nature que Dieu a créée. On ne peut qu'être touché par tout ce qu'il a mis dans la nature, dans sa création. Et Simon va nous lire le psaume 8 qui nous rappelle tout cela.
Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.
Seigneur, ton nom est magnifique. C'est ce nom que nous voulons élever encore ce matin. Ce nom merveilleux, ce nom glorieux, le nom de Jésus, Yeshua, notre Sauveur. Merci Seigneur parce que tu nous as créés, tu as créé la nature, mais tu nous as aussi créés nous. Et tu nous as créés pour apprendre à te connaître, à être en relation avec toi Seigneur. Et nos cœurs sont dans la reconnaissance ce matin. Et nous voulons de tout notre cœur, Seigneur, te louer, t'adorer, te bénir. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est si merveilleux.
Sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux.
Oh, ce nom est si glorieux.
Je vais vous inviter ce matin à prier avec moi. Je sais que c'est pas facile de prier, de chanter derrière un masque. Je l'ai fait aussi il y a 2 semaines, donc je sais que c'est pas simple. Mais le Seigneur dit dans sa parole, il y a un verset merveilleux au psaume 38, que nos soupirs ne lui sont pas cachés. Alors quand on parle derrière un masque, c'est plus qu'un soupir, voyez. Donc Dieu, il entend nos prières. Et je voudrais vous inviter à prier, voyez, je vais prier, ou d'autres de l'équipe. Eh bien, si vous avez à cœur d'élever vos voix, faites-le. On peut offrir à Dieu une louange collective, parce que c'est ensemble que nous voulons lui dire tout notre amour en réponse au sien. Alors n'hésitez pas à prier en même temps, que vraiment en louange collective, on puisse bénir le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci, parce que c'est vrai, quelles que soient les conditions peut-être matérielles dans lesquelles nous sommes, Seigneur, nous savons que tu entends toutes nos prières. Nos soupirs ne te sont pas cachés, Seigneur, et tu nous aimes. Tu aimes chacun d'entre nous. Merci pour ton amour fidèle, Seigneur. Merci pour le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom que nous venons d'élever ce matin. Parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, Seigneur. Et nous te louons aussi parce que tu nous l'as rappelé, nous sommes précieux à tes yeux. C'est toi qui es notre Créateur. Et tu nous as créés pour apprendre à te connaître, à t'aimer, à rentrer en contact avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour cette matinée où nous pouvons ensemble tout à nouveau te rendre gloire et l'honneur. Tu es infiniment grand, Seigneur, mais aussi infiniment proche de chacun de nous. C'est dans cette adoration aussi que nous voulons offrir ces 2 chants au Seigneur, en reconnaissant sa grandeur, mais en reconnaissant aussi qu'il nous accueille tel que nous sommes. Et que même si parfois ce n'est pas facile, eh bien, nous voulons continuer à chanter gloire à l'Éternel, parce qu'il est digne de nos louanges. Il nous a créés aussi pour le louer, pour l'adorer. Alors je vous invite vraiment dans ces 2 chants suivants d'offrir vraiment au Seigneur votre adoration.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier.
Je songe que tu m'as créé, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté.
Je chantais.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si
je suis fragile, même si c'est difficile,
je chanterai en l'honneur de son
nom. Encore une fois, Capella.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je ne sais pas si ça vous arrive, je chante tout le temps quand je marche, quand je fais le ménage, de partout tout le temps, parce que ça me fait du bien. Ça vous fait du bien ? Amen, ils sont là. J'espère que vous aussi, derrière vos écrans, ça vous a fait du bien d'être dans la présence du Seigneur. Alors on va passer par quelques annonces. des annonces habituelles. Donc, si vous voulez nous contacter, surtout, n'hésitez pas, on est là avec Michel. Encore cette semaine, on est là. Vous pouvez nous appeler sur le fixe, donc au secrétariat. Le numéro, c'est 03 88 40 26 41. Ou le numéro de portable qui est le 06 28 13 58 51. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, nous laisser un mail sur contact@epis-strasbourg.eu. N'hésitez pas, faites-nous un petit coucou, même si vous voulez, nous, ça nous fera toujours plaisir. Si vous avez besoin aussi d'un entretien téléphonique ou en visio, ou même au secrétariat, on reçoit aussi. Pour vous inscrire au culte, vous avez vu que vous allez sur le site de l'EPI pour vous inscrire. Il y a tout décrit, tout détaillé, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Une petite annonce encore. Vous avez à l'extérieur, donc ça c'est pour tous ceux qui sont ici, pour les offrandes, vous avez à l'extérieur deux troncs à votre à l'entrée, deux troncs qui sont à votre disposition. C'est des grands meubles, c'est du fabriqué maison. Donc vous pouvez mettre à l'intérieur vos offrandes. Pour ceux qui veulent nous soutenir et qui ne savaient pas comment, vous pouvez envoyer vos offrandes directement au secrétariat. On les fera transmettre au trésorier. Ce matin, c'est Michel qui va nous apporter la parole de Dieu. Et avant cela, je veux quand même encore remettre ces instants à Dieu parce que c'est super important pour que nos cœurs soient prêts et à écouter la parole que Dieu a nous adressée ce matin. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce temps de louange, de chant que qu'on a pu t'apporter. Et je veux te prier pour Michel, je veux vraiment prier que tu parles au travers de lui, que tu l'utilises ce matin et que nos cœurs soient attentifs, Père, à ta parole. Non pas à l'écouter et à l'oublier, mais à l'écouter, à la faire nôtre et à la mettre en pratique. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce matin. Et il semble que de moins en moins de timidité soit là et que nous puissions vraiment prendre toute notre liberté pour louer le Seigneur. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent soit en direct, soit en différé. On a hâte de pouvoir reprendre les rencontres de manière un petit peu plus normale. Cela nous tarde de pouvoir vivre ensemble aussi la communion fraternelle. Ce matin, je voudrais avec vous prendre un petit peu de recul par rapport à la situation globale de ce que nous sommes en train de vivre, qui est absolument inédit. Vous dire que j'ai préparé un message qu'on pourrait intituler, j'essaie de trouver vraiment un texte et puis une introduction qui puisse nous parler. Et pour finir, je trouve ce texte, cette introduction, ce titre que j'ai appelé « Message pour un temps de crise ».« Message pour un temps de crise ». Ce n'est pas la première crise que nous vivons, et sans vouloir être prophète, ce ne sera sans doute pas la dernière. Nous sommes encore au milieu d'une période sensible. Le Covid-19 circule toujours, et la crise n'est pas terminée. Alors j'aimerais vous encourager et nous aider à découvrir ou à redécouvrir quelques clés essentielles pour traverser les temps de crise. Et nous allons nous appuyer ce matin sur les deux derniers chapitres du livre des Actes des Apôtres, chapitre 27 et le chapitre 28. Il s'agit là du récit du voyage de l'apôtre Paul à Rome, voyage et naufrage. Et ce texte nous servira donc de ligne directrice pour le message. Il s'agit là de l'un des récits les plus vivants de la Bible, l'un des récits les plus détaillés aussi de la littérature ancienne sur un voyage en mer et un naufrage. Il nous parle de vérités spirituelles qui vont nous aider, qui vont aussi nous libérer de la peur, de la crainte, de la confusion, de la solitude et de toutes sortes de préoccupations qui peuvent être les nôtres encore en ce moment. Le livre des Actes, d'ailleurs, raconte la vie de ces premiers chrétiens, les 30 premières années du christianisme. C'est toute une génération dont on voit comment ils ont vécu leur vie chrétienne. Et il rend ses disciples tellement proches de nous qu'on peut facilement s'identifier à eux. Dans ce voyage qui va emmener Paul jusqu'à Rome, il est embarqué, malgré lui, sur un navire. Il est escorté par des soldats romains, mais aussi par quelques amis. Au fond, il se retrouve un peu comme nous tous dans une situation qu'il n'a pas choisie et qu'il n'a pas voulu, puisqu'il est emmené de force aux côtés d'autres prisonniers, alors que lui-même n'a rien fait pour mériter cela. C'est une profonde injustice qu'il subit. Le roi et le gouverneur de cette époque-là, qui l'ont entendu, diront, acte 26, 31, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Il se retrouve donc malgré lui sur un navire qui navigue dans une tempête. Et là, ça nous parle. Nous sommes, nous aussi, encore au milieu de la tempête. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il me semble que c'est ce que beaucoup ressentent en ce moment. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien fait pour déclencher cette crise, et nous sommes emportés, croyants comme non-croyants, dans cette crise, dans cette tempête, qui est une tempête sanitaire, qui est une tempête sociale, qui est une tempête économique, une tempête financière, une tempête mondiale. En quittant le bureau cette semaine, je remonte la rue et j'étais frappé par les longues files d'attente de personnes, de familles, qui se sont approchés de ces lieux, ces associations qui distribuent les colis alimentaires. Et j'ai le cœur serré parce qu'il me semble que les files sont de plus en plus longues et que les hommes et les femmes qui sont dans ces files d'attente sont de plus en plus nombreux. Nous sommes vraiment au cœur d'une tempête. Alors oui, merci à tous ces bénévoles de la banque alimentaire, des Restos du Cœur, des associations, mais des églises aussi dans notre quartier, nous sommes nombreux. Et nous-mêmes, merci et je suis fier de nos bénévoles à l'EPI qui contribuent à soulager un peu la détresse humaine. Nous sommes dans une tempête. Une tempête d'opposition, une tempête d'adversité. Acte au chapitre 27, au verset 4. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Tous les sportifs redoutent ce vent de face. Un vent qui épuise, un vent qui fatigue. Cette saison de crise génère beaucoup de fatigue. C'est peut-être la phrase que j'ai le plus entendue ces dernières semaines. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est une tempête qui génère aussi de l'impatience. Acte 27, verset 7. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Une autre version, la version Tob, dira « Durant quelques jours, notre navigation fut ralentie. » On a l'impression de vivre au ralenti. On vit une atmosphère bizarre et on est vraiment impatient de retrouver une normalité. Plusieurs d'entre vous nous ont fait cette remarque que c'était difficile de venir au culte avec un masque. C'est difficile de chanter, comme le disait Sophie ce matin, derrière un masque, c'est vrai. Mais nous avons un Dieu qui franchit toutes les barrières et qui sait nous rencontrer dans nos limitations, dans nos restrictions. Il est bon de le louer, de le célébrer de manière limitée, mais avec tout notre cœur. Et Dieu voit notre louange et notre reconnaissance. Il nous aime et il veut nous faire du bien. Et ce matin, où que vous soyez, derrière votre écran, ici, Dieu est le même. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et la tempête génère aussi une certaine usure. après plusieurs mois de crise, on l'entend autour de nous. C'est long, c'est long. Acte 27, verset 9, un temps assez long s'était écoulé. Vous voyez, c'est un récit qui a été écrit il y a 2000 ans, et combien il est toujours d'actualité. La Bible est le livre le plus vieux du monde, est toujours d'actualité. Et son auteur est toujours vivant. Il nous parle. Vous voudriez bien tourner la page et passer à autre chose, et ça c'est tout à fait légitime, c'est l'expérience humaine, bien sûr. Mais l'expérience chrétienne consiste à se poser, à méditer, à réfléchir, à entrer en soi-même et à tirer les leçons de toute cette situation, à sortir de la tempête en ayant grandi en maturité. Et je crois que cette situation peut contribuer à notre croissance en maturité chrétienne. Et la tempête est pleine de risques et de dangers. Au chapitre 27 et au verset 9, la navigation devenait dangereuse. Pourtant, Paul les avait avertis de ne pas prendre la mer, et ils ne l'ont pas écouté. Je vois, disait-il, mes amis, que ça ne va pas se passer sans risque. Et plus tard, quand le bateau est sur le point d'échouer, il dira, chapitre 27, verset 21, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la crête afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » On est en plein dans l'actualité. Et c'est stupéfiant de constater que malgré tous les avertissements, tous les messages médiatiques, certains individus manifestent une totale insouciance, indifférence à l'égard des mesures sanitaire. Il y a des gens qui se mettent en danger et qui mettent les autres en danger. Alors oui, continuons à respecter les mesures barrières et les mesures de prudence. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans tous les domaines. Il y a quelque temps, un couple me disait, se préparer à se marier, et vous savez qu'à l'épi, on attache beaucoup d'importance à l'accompagnement des jeunes couples qui se préparent au mariage. On essaie de bien poser les choses bien proprement pour leur donner un maximum d'atouts afin de pouvoir vivre une vie de couple comme de véritables chrétiens. Il y a quelque temps, on me disait « Mais pasteur, on s'aime !» Mais c'est bien, tant mieux. C'est bien. Laisser parler son cœur, c'est très bien. Mais il faut prendre aussi du temps pour réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez construire? Où est-ce que vous voulez aller avec votre couple? Un couple se construit de manière réfléchie, de manière sensée. Et il y a beaucoup de drames qui pourraient être évités avec un peu de réflexion, un peu plus de bon sens, un peu plus d'écoute, un peu plus d'humilité. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu il y a quelques semaines en arrière encore. On a entendu des mots comme « essentiel », des mots comme « humilité », parce qu'on était en pleine confusion. On a besoin d'être à l'écoute. Prenons ce passage maintenant dans le chapitre 27 et au verset 13. On va lire acte 27, 13 à 17. Pour avoir un petit peu plus d'éléments de ce récit. Acte 27 au verset 13, je lis dans la version second, 21. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent violent qu'on appelle Euraquilon s'est déchaîné. C'est un vent qui vient du nord et qui vient de l'est en même temps. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Euraquilon. Au verset 15, « Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent, et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Clauda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles, et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. » On retrouve ici dans ce texte des expressions qui collent à notre situation. Un léger vent du sud vint à souffler. Les premiers échos qu'on a eus du coronavirus, nés d'Asie là-bas, de la Chine, oh ben c'est loin, ça n'arrivera pas chez nous. On a dit ça dans les années 60. La drogue, oh, c'est les États-Unis, ça n'arrivera pas chez nous. On a dit tellement de choses. Un léger vent du sud, mais c'est vrai aussi pour ta vie. Gare au léger vent qui souffle. J'avais que quelques cas et c'était loin. Mais le léger vent s'est transformé en tempête. Une tempête qui a fini par souffler sur le monde entier, sur les familles, sur les emplois, sur l'économie. Chapitre 27 au verset 13, il nous dit ceci, « Ils se croyaient maîtres de leurs projets et de leur destinée. » Ils se croyaient maîtres. Ouais, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans et qui nous rejoint aujourd'hui. Nous pensions être maîtres de notre santé. Nous pensions être maîtres de notre emploi du temps, de notre travail, de notre liberté. Vous voyez bien que nous ne sommes pas maîtres du temps. Il n'y en a qu'un seul qui est le maître de l'univers, comme l'a rappelé Sophie en début de ce temps de louange. Il est le maître de l'univers. Et voilà que du jour au lendemain, des milliards d'individus se trouvent cloîtrés chez eux, confinés, privés de liberté. Alors oui, en réalité, nous ne sommes pas maîtres de situations, d'événements. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Acte 27, 15, le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent. Et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. C'est un vocabulaire technique ici que Luc qui écrit, Luc est médecin, donc les détails, il est aussi historien. Il prend soin de bien utiliser le vocabulaire adapté, mais ce vocabulaire, il nous parle, il nous touche. Emporté à la dérive. Et finalement, cette tempête génère aussi du désespoir. Au chapitre 27, verset 20, « Le soleil et les étoiles » ne sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Alors, ma prière, c'est que ce message nous aide. Nous aide à ne pas nous laisser dériver dans le désespoir, dans le découragement, dans la dépression, dans le fatalisme, la colère, la révolte, ou vers de mauvais choix que vous risquez de regretter. Mes amis, nous sommes encore dans la tempête. L'orage n'est pas passé. Les marins ont pris toutes les mesures nécessaires et tout ce qui a pu être fait humainement parlant l'a été, matériellement, techniquement, tout a été mis en place. Et je crois que nous aussi, nous voulons être prudents et garder tous ces gestes dont on dit qu'ils sont des gestes barrières au coronavirus. Au cours du voyage, ils ont délesté le bateau. Ils ont jeté à la mer toutes les charges et tout ce qui était lourd. Et je crois que dans cette tempête, cette crise, les uns comme les autres ont délesté les charges, se sont délestés. Ils ont dû lâcher prise par rapport à des projets, par rapport à leur programme, par rapport à leur façon de vivre. Et vous avez peut-être été délesté sans le vouloir. Vous avez perdu un être cher. Vous avez perdu des biens. Vous avez subi toutes sortes de pertes. Pour vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Le soleil et les étoiles ne sont pas apparus pendant plusieurs jours. Cela signifie qu'ils n'avaient plus de repères pour se diriger. Ils étaient perdus, lost, perdus. Je ne sais pas si vous avez été perdu un jour. tout cas, moi, j'étais perdu avec toute une équipe de missionnaires en plein Sahara. Et je peux vous dire que ça fait drôle quand on est perdu. Il y avait quelques centaines de kilomètres de sable devant, autant derrière et sur les côtés. Et vous ne savez plus où vous êtes. À ce moment-là, il n'y avait pas de GPS. Moi, j'étais censé être navigateur, censé donner la route. Il y avait juste une carte, une petite boussole, des jumelles. Il fallait regarder tous les kilomètres, des piquets, des poteaux, des tas de pierres. Et à cause d'une tempête de sable, nous n'avons plus rien vu du tout. Et nous ne savions plus où nous étions. Si vous n'avez jamais prié intensément dans votre vie, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, vous commencez à prier sérieusement. Et je crois que sur ce bateau, tout le monde a hurlé, tout le monde a crié, chacun son Dieu. C'était une confusion incroyable. Je crois que de tout leur cœur, ils se sont adressés, croyants comme non-croyants. J'étais un jour dans un avion qui perdait de l'altitude. Je peux vous garantir qu'on s'accroche à tout ce à quoi on peut s'accrocher et que tout le monde commence à prier, même les non-croyants. Je crois que c'était le cas ici. Ils étaient perdu. Et au plus fort de la crise, notre situation est devenue ingérable. Donc, n'accusons pas les uns ou les autres. Je crois que chacun a fait ce qu'il pouvait. Nous étions vraiment dans une drôle de situation. Les choses commencent à s'améliorer, mais nous ne sommes pas encore sortis. Alors, le temps me manque pour fouiller le texte en profondeur, parce qu'il est vraiment riche en enseignements sur le leadership, sur l'autorité, sur le positionnement, sur la prise de parole, parce qu'à un moment donné, c'est l'apôtre Paul qui est là dans le bateau. Il y avait une autorité militaire, il y avait une autorité maritime, le capitaine du bateau, mais à un moment donné, c'est l'apôtre Paul qui est là et qui, rempli de l'Esprit de Dieu, donne les directives. À partir de là, voilà ce qu'on va faire. Leçon de leadership. On va essayer néanmoins de dégager quelques clés essentielles qui vont nous aider à traverser des temps de crise. Acte 27, verset 21 jusqu'au verset 25. Verset 21 jusqu'au verset 25. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter ». Alors, il commence toujours par le commencement. Commençons par ça. Il aurait fallu m'écouter. Il ne fait pas de reproche, parce qu'après, vous allez le voir, il va montrer quand même la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Et heureusement qu'il y a la grâce de Dieu dans nos vies, qui nous donne toujours une deuxième chance. Mais il dira quand même, fallait m'écouter. Mais maintenant, au verset 22, « Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. » Ça, c'est le langage de Dieu. Car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Il y a beaucoup de choses ici dans ce texte. C'est une rencontre avec un ange. Dieu lui parle au travers d'un messager. Un ange, c'est un messager. Mais ce que je retiens, c'est surtout ce qu'il est en train de dire ici. Le Dieu auquel j'appartiens m'a dit. Le Dieu auquel j'appartiens. Pour moi, ça c'est une expression clé. Une expression clé. C'est la confusion la plus totale à bord. Les gens se cramponnent à tout ce qu'ils peuvent. Il y a des cris, des hurlements, c'est la panique. Les gens sont malades, ils ont le mal de mer. Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Ils sont au milieu d'un chaos monumental. Et au milieu de ce chaos, un homme se lève, disant, « Le Dieu auquel j'appartiens, m'a dit. » Le Dieu auquel j'appartiens. Plus personne ne sait où il est à la maison, mais l'apôtre Paul, il le sait. Est-ce que tu es aussi comme Paul? Et as-tu aussi un Dieu auquel tu appartiens? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu es à lui? Autrement dit, il est en train de s'exprimer avec sa foi en lui disant « Mais ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Mon avenir est assuré. » Et ça me fait penser au texte de David dans le psaume 31, verset 16, lorsqu'il dit « Mes destinées sont dans sa main ». Il n'y a rien de plus rassurant que de savoir que ma vie est entre les mains de celui qui est le maître de l'univers. Moi, je ne suis pas maître des circonstances, mais lui, c'est le maître de l'univers, le maître de la création. Il a créé la terre et la mer est à lui. Le Dieu auquel j'appartiens m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? N'aie pas peur. Ce matin, j'aimerais vous donner les salutations du ciel et vous dire, de la part du ciel, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Dieu auquel nous appartenons nous dit, n'ayez pas peur. Et il lui dit aussi, tu iras jusqu'à Rome. Et tu iras devant l'empereur. Et l'histoire nous apprend par la suite qu'une partie de la maison de César s'est convertie à l'annonce du message de l'Évangile. Quel témoignage pertinent de l'apôtre Paul. Tu iras jusqu'à Rome. Autrement dit, Dieu est en train de nous dire ce matin, tu iras jusqu'à destination. Tu iras jusqu'au bout. Parce que Dieu a pour ta vie une destination. Psaume 139 au verset 16. Lorsque je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Incroyable. Ça, c'est notre Dieu. Courage, mes amis. J'ai confiance que celui qui m'a dit que j'irai jusqu'au bout, eh bien, il réalisera cela. Paul encourage tout le monde, il leur donne de l'espoir, il leur donne de l'espérance. Il invite tous les passagers autour de lui à espérer dans ce Dieu auquel il appartient. Le pasteur Walter Zanzen de Genève, que nous avons reçu ici l'an dernier, dans le cadre du culte de l'Entente, a écrit ces jours-ci un petit post, et je vous le lis parce que j'ai trouvé que c'était très très bien écrit, sur... le fait d'espérer en Dieu. Voilà ce qu'il dit. Espérer en Dieu est une action de foi qui veut dire s'attendre à lui. Rester au centre de sa volonté, garder une position de foi envers et contre tout, patienter, tenir ferme et louer son nom en attendant le miracle. Espérer en Dieu, c'est aussi lâcher prise par rapport à tous nos pourquoi. Les pourquoi sont des voleurs. Alors, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas se poser les questions. Si, il faut se poser les bonnes questions. Mais lorsque sans arrêt, je rumine et je ressasse, pourquoi ceci, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, je finis par être rongé et c'est la raison pour laquelle on peut dire que les pourquoi sont des voleurs de paix, des voleurs, tous les autres passagers traumatisés par le naufrage. Et le chrétien que nous sommes n'est pas un surhomme. Le chrétien, la chrétienne, nous ne sommes pas des surhommes ou des surfemmes, des superwomen. Nous sommes des êtres normaux et nous souffrons avec d'autres qui souffrent, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. D'ailleurs, Paul a vécu d'autres naufrages. Quand il écrit aux Corinthiens, dans la deuxième lettre au chapitre 11, 25, il dira « Trois fois j'ai fait naufrage ». Il sait ce que c'est qu'un naufrage. Et il y a des expériences qui marquent et qui laissent des traces. Malte, c'est l'inconnu. Il y a là des gens qu'ils ne connaissent pas, une langue qu'ils ne connaissent pas. Et puis l'inconnu, vous le savez, l'inconnu fait peur. Et le pasteur Pierre Samuel nous en a parlé il y a 15 jours. Faire face à l'inconnu, et il nous donne quelques clés pour faire face à l'inconnu. Malte représente ces moments dans nos vies où l'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Comment est-ce que je me suis retrouvé ici? Qu'avons-nous fait pour arriver là? Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Ce n'est pas comme ça que j'avais envisagé mon parcours et mon cheminement. Je m'étais fixé des objectifs et je me rends compte que je suis loin de ma destination, loin de mes objectifs. Frères et sœurs, chers amis, après 52 ans de vie et de cheminement avec Jésus, j'ai connu des saisons de bénédiction, des saisons de tempête, j'ai connu des succès, j'ai connu des échecs, des victoires, des défaites. Mais ce que nous traversons en ce moment est franchement inédit. C'est inédit. Et j'aimerais vous dire, accrochez-vous. Accrochez-vous. Car après le naufrage, se profile une perspective de sauvetage. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu est capable de changer le mal en bien. Jamais nous n'avons vendu autant de Bibles. Les maisons d'édition vendent de plus en plus de Bibles. Jamais nous n'avons eu autant d'auditeurs et de gens qui se connectent pour écouter les messages. Et toutes les églises et tous ceux qui diffusent les messages en ligne peuvent l'attester. Donc prenez courage, accrochez-vous, faites confiance à Dieu, confiez-lui votre vie et il agira en votre faveur. Troisième élément, troisième clé, servir encore et toujours. Acte 28, verset 3, Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier. » Et puis la suite du récit montre qu'ils s'attendaient à le voir tomber par terre d'une minute à l'autre et mourir. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Et je crois qu'à ce moment-là, Paul est en train de délivrer un message. D'abord, je note que Paul, qui est théologien, qui est philosophe, un homme érudit, un polyglotte, il parlait au moins 5 langues, se met au service des autres. En apportant son aide, en apportant sa contribution, il n'a pas peur de se salir les mains, il ramasse du bois comme tous les autres et il est préoccupé par les autres pour réchauffer ceux qui ont froid. Et dans la crise, mes amis, ne restez pas sans rien faire. Continuez à servir comme vous l'avez fait, et peut-être d'une autre manière, mais continuez à servir, continuez à aimer, continuez à aider, continuez à donner. Il y a tant d'actions qui se sont mises en place au moment du confinement, tant de belles actions, et je pense que chacun mérite vraiment un hommage pour cela, de belles actions qui ont pris place, et le chrétien devrait aussi là donner l'exemple. Paul prend soin des autres, et lorsqu'il écrit aux chrétiens, il dira « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ ». Et dans ce domaine du service, il est aussi un exemple pour chacun d'entre nous. Il est l'imitateur de Christ. Christ qui a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie ». Vous connaissez ce slogan ?« Sauver pour servir ». Je crois que c'est d'actualité. « Sauver pour servir ». Et il me semble qu'il y a là une clé pour traverser des temps de crise. C'est-à-dire non pas être tourné vers nous, nous-mêmes, et moi, et moi, et moi. Et vous savez bien que cette crise a été comme un révélateur du cœur humain. On s'est rué dans les magasins pour faire le plein des chariots. Et moi, et moi, et moi, et moi. Trop plein d'égoïsme, d'égocentrisme. Soyons au contraire des exemples, des modèles. Faisons comme l'apôtre Paul, prenant soin des autres. Et alors qu'il ramasse du bois, une vipère s'accroche à sa main et vu la réaction donc des gens autour de lui, manifestement il a été blessé, il a été mordu. À ce moment-là, je crois que l'apôtre Paul est en train de prêcher le meilleur message de toute sa carrière. Sans même exprimer un seul mot. Il prend cette vipère-là, il la secoue et la jette dans le feu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il fait juste ça? Mais on a lu quand même précédemment cette expression, le Dieu auquel j'appartiens m'a dit, tu iras jusqu'à Rome. Ce n'est pas le moment de mourir ici sur l'île de Malte. Tu iras jusqu'au bout de ta mission. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu vas aller jusqu'au bout de ta destination. Ce n'est pas le moment de mourir. Et je crois que là, il est en train de prêcher à tous ces gens. Il ne comprend pas leur langage, ils ne se comprennent pas. Mais ça, ils l'ont compris. Ils devaient s'écrouler sur place à la suite de la morsure de cette vipère. Et il secoue cette vipère dans le feu. Il n'est pas mort, il est en vie. Le Dieu auquel j'appartiens m'a dit que j'irai jusqu'à Rome, jusqu'au bout de ma destination. Alors, question ce matin, avez-vous permis à une vipère de s'accrocher à votre main? Une vipère de colère, une vipère d'incrédulité, une vipère de pourquoi incessant? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi? Une vipère de révolte, une vipère d'endurcissement, de jalousie, de désobéissance. La vipère, elle délivre un venin, un poison. Vous en êtes contaminé et vous finissez par contaminer les autres. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la crise par laquelle vous passez, mes amis, ne laissez pas de vipère s'accrocher à votre main. Faites comme l'apôtre Paul, secouez cet animal, secouez la jalousie, l'endurcissement, la révolte et tout cela. Et puis, quatrième point, et j'invite l'équipe à revenir sur l'estrade, nos souffrances peuvent devenir un canal de guérison. Plutôt que d'être, comme je le disais tout à l'heure, préoccupé par soi-même, ce que nous sommes en train de vivre et parfois nos pires blessures, nos pires souffrances peuvent devenir un instrument de bénédiction pour d'autres, instrument de restauration, instrument de guérison. Les naufragés sont accueillis par Publius, le premier magistrat de l'île, qui est gouverneur romain. Son père est malade et Paul prie pour le père de Publius en lui imposant les mains, comme l'avait enseigné Jésus. Le père de Publius est guéri, ainsi que beaucoup d'autres malades. Et la main encore blessée, parce qu'il priait en imposant les malades, posant les mains sur ces personnes malades, la main encore blessée par la morsure du serpent, cette main même devient un instrument, devient la main que Dieu utilise pour guérir les malades. Les autochtones sur place, sur l'île, ne comprenaient pas le langage, mais ils ont compris que Dieu les aimait et qu'il voulait les guérir. Je crois que tout le monde comprend le langage de l'amour. Quand Dieu bénit, quand Dieu guérit, quand Dieu restaure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est dans les meurtrissures de Jésus, dans ses blessures, que nous pouvons être guéris. Dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le père de Publius s'est converti, et beaucoup d'autres avec lui, et l'histoire de l'Église nous l'apprend. Il est devenu le premier pasteur de cette île. Et ce qui devait se terminer en catastrophe, finalement, devient vraiment une bénédiction pour toute cette région. Et l'île de Malte, encore aujourd'hui, 2000 ans après, contient encore des traces du passage de l'apôtre Paul. Il n'est resté que 3 mois sur cette île. Mais aujourd'hui encore, on y voit des marques de ce passage. Il y a eu beaucoup de conversions. Des hommes et des femmes ont été sauvés. Alors on peut nous poser la question, est-ce que Dieu peut guérir encore aujourd'hui? Alors qu'il y a tellement de cas de contamination, tellement de malades, alors qu'il y a eu tellement de morts. Dieu est-il encore capable de guérir aujourd'hui? Oui, Dieu est encore capable de guérir aujourd'hui. Il le fait au travers de la prière. Si vous criez à lui, si vous le priez, Seigneur sauve-moi, Seigneur, guéris-moi. Tous les gens du bateau ont été sauvés, 276 personnes. C'était un navire de commerce qui emmenait du fret, beaucoup de marchandises, mais qui emmenait aussi des passagers. Ces hommes et ces femmes ont été sauvés. Vous pouvez aussi être sauvés en demandant au Seigneur de le faire. Apôtre Paul, interpellé à un moment donné par un gardien de prison qui lui disait « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » La main blessée de Paul est l'image de la main tendue de Dieu. Cette main percée de Jésus qui s'offre pour votre pardon et pour votre restauration. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu es le maître des temps, de l'histoire, le maître de l'univers. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes pas maîtres des événements, ni de cette situation de crise sanitaire. Mais toi, tu es maître de tout, tu es souverain. Je te prie, Seigneur, pour tous nos amis qui nous écoutent. Je te prie pour mes frères et sœurs. Merci de leur permettre d'être ce Dieu auquel ils appartiennent. Seigneur, je veux t'appartenir aujourd'hui. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Faites cette prière et il le deviendra. Seigneur, j'aimerais que tu changes aussi tous les naufrages en sauvetage. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas parce que tu as connu un échec dans ton mariage, que ta vie est un échec. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Il peut sauver ton naufrage et te permettre de vivre un sauvetage pour toi-même, mais aussi pour ton entourage. Le Seigneur peut aussi t'aider à servir et à te donner encore. Vous avez peut-être été déstabilisé, perdu vos repères habituels, découragé. Apprenez à servir autrement, différemment. Le Seigneur te dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je te prie, Seigneur, pour tous ces amis qui cherchent à sortir de la crise en servant, en donnant, en aimant. Et merci de permettre à nos pires souffrances de devenir un canal de bénédiction, de guérison pour beaucoup. Merci Seigneur de ne pas nous laisser et tu ne nous abandonnes pas. Et merci de venir à notre rencontre et de nous aider à te confier nos vies. Et merci parce que tu nous amèneras jusqu'à destination. Tu as dit « Je suis moi-même tous les jours avec vous » et nous le croyons. Et nous t'en remercions. Amen. Amen.
À vous lever pour terminer ce culte par une bénédiction. Merci beaucoup, Michel, pour le message que tu nous as donné. Je voudrais vous lire une bénédiction que l'on trouve dans la Bible. Ce livre qui est la parole du Dieu auquel nous appartenons chacun. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi, qu'il te donne la paix. Bénédiction qu'on peut lire au chapitre 6, verset 24 du livre des Nombres. Alors je vous invite, c'est un chant que vous ne connaissez pas. C'est un chant aussi qui m'a parlé beaucoup pendant la période de confinement parce qu'il a été chanté par des chrétiens. Enfin, c'est un chant qui était en anglais au départ, mais il a été chanté Bénédiction France par des chrétiens de 100 églises différentes. Et c'est magnifique de voir ça. Le corps du Christ qui se lève, quelle que soit peut-être notre culture d'origine, eh bien, nous savons que nous sommes l'objet de la bénédiction du Seigneur. Et nous pouvons aussi être en bénédiction les uns pour les autres. Voilà. Donc, si vous êtes pas trop fatigué, je vous invite à vous le lever et à apprendre ce chant que vous pourrez aussi vous chanter peut-être plus tard.
il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants,
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Mais je pense que, au nom de l'équipe pastorale, on vous bénit dans le nom du Seigneur. Et vraiment, passez un bon dimanche. Restez avec ce message gravé dans vos cœurs, ce chant aussi. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur. Et vraiment, passez un bon dimanche et une bonne semaine. Et à bientôt.
Thank you.